They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What will be your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的母亲南木家正忙碌着。正忙碌着。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez sur France Culture du lundi au vendredi. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission proposée ce matin, préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Clément Salazar, Tiffaine de Roquigny, Audrey Rameau, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Nicolas Delmas. On poursuit notre série consacrée aux banques entamée lundi. Nous allons parler aujourd'hui de l'investissement dans l'économie verte. On pourrait titrer cette émission quand les billets se mettent au vert.
Aucun PDG d'une entreprise ne pourrait survivre s'il disait que le changement climatique n'existait pas. Si vous avez un immeuble près de l'eau, vous le changez de place, vous construisez une digue, vous achetez une assurance vie ou quelque chose, mais vous résolvez la situation. Vous ne restez pas assis en disant « je ne suis pas certain que ce problème soit réel ».
La combinaison de cette vague de preuves scientifiques et des dynamiques actuelles du système financier nous suggère que d'ici peu de temps, le changement climatique menacera la solidité financière de nos pays et à plus long terme, leur prospérité.
Nous avons besoin d'aller vers des sources d'énergie qui sont encore moins chères que l'énergie au carbone que nous utilisons aujourd'hui. Nous devons avoir une énergie propre et fiable.
Michael Bloomberg, homme d'affaires américain, ancien maire de New York, qui s'exprimait la semaine dernière à la COP21. Mark Carney, actuel gouverneur de la Banque d'Angleterre, ancien gouverneur de la Banque du Canada. Et puis Bill Gates, milliardaire, fondateur de Microsoft, qui dévoilait lors de l'ouverture du sommet de Paris sur le climat son Breakthrough Energy Coalition. Un autre type d'investisseur privé, engagé à long terme vis-à-vis des nouvelles technologies et disposé à consacrer cette entreprise un capital risque d'une souplesse et d'une patience considérable. Voilà ce que disait Bill Gates. Peut-être une critique voilée. À peine des banques qui n'en feraient pas assez. Vendredi dernier, le sommet international sur le climat qui se poursuit en ce moment au Bourget a accueilli nombre d'acteurs de la finance, banquiers, assureurs, gestionnaires de fonds de pension. C'est aussi le jour qu'avait choisi le ministre français de l'économie et des finances, Michel Sapin, pour venir justement au Bourget et demander que soit réorientée une partie des investissements vers des projets bas carbone. Alors comment réorienter les investissements? Comment diriger les investisseurs privés, notamment dans des projets écologiquement responsables? Comment faire des banques, des acteurs directs et puissants de la transition vers une économie verte? Avant l'ouverture de la COP21, justement, plusieurs banques, notamment des banques françaises, se sont engagées en faveur du climat à travers des communiqués de presse. BNP Paribas renforce sa gestion du risque carbone et va consacrer 15 milliards d'euros aux énergies renouvelables, lisait-on. La Société Générale s'engage en faveur du climat. Natixis cesse le financement des industries du charbon dans le monde entier. Mieux, quelques jours avant l'ouverture, BNP Paribas annonçait son intention de ne plus financer du tout l'extraction de charbon et de doubler ses financements en faveur des énergies renouvelables à l'horizon 2020. Alors peut-on croire en ces engagements? Seront-ils tenus et quelles sont les motivations de ces banques? Les banques sont-elles les nouvelles amis du climat? Voilà finalement la question qu'on va se poser ce matin avec notre invité ici, Pierre Ducret. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseiller spécial du groupe Caisse des dépôts pour le climat. Vous êtes également président du think tank E4CE, c'est-à-dire Institut pour l'économie du climat. Alors, la Caisse des dépôts et consignations créée il y a maintenant près de 2 siècles, je crois que ce sera l'année prochaine. L'anniversaire. Hein.
Oui.
Il y a quelques années, la Caisse des dépôts et consignations avait créé une filiale consacrée à la transition énergétique, CDC Climat, mais elle n'existe plus aujourd'hui.
Non, elle n'existe plus. Elle a été réintégrée dans le cœur de la direction des investissements de la Caisse des dépôts.
Pour quelle raison?
Parce que, justement, les questions de climat sont devenues maintenant le cœur de la stratégie de la Caisse. Donc, ce n'est plus l'heure des pionniers, comme l'était CDC Climat, c'est l'heure du mainstreaming, comme disent nos amis anglo-saxons.
Donc le climat au cœur finalement de la stratégie de la Caisse des dépôts et consignations. De façon générale, Pierre Ducret, comment est-ce que vous percevez les discussions qui sont encore en cours au Bourget, au Parc des Expositions, à cette COP21? Est-ce que vous avez le sentiment que le monde de la finance a répondu présent pour cette COP? Il est mobilisé en tout cas.
Il est très mobilisé. Et la grande nouveauté, c'est que le monde de la finance est plus seulement de la finance alternative, disons, mais le cœur du monde de la finance soit présent au sein de la COP. C'était quelque chose qui était encore inimaginable il y a 2 ans, d'avoir autant d'acteurs financiers majeurs du monde engagés et intégrés finalement dans le processus de négociation. Pas exactement dans la négociation du texte, mais vous savez, dans tout ce qu'on appelle cette démarche Lima Paris et l'agenda de l'action, qui fait une part très importante à la dimension financière. Pas seulement sur le sujet clé de la négociation, qui est le fameux sujet des 100 milliards qu'il faut arriver à dégager pour les financements Nord-Sud à compter de 2020, mais sur l'ensemble de la question de la bascule du système financier dans le sens du financement des investissements.
Qui est en réalité au moins aussi importante.
Qui est en fait beaucoup plus importante.
En fait. Évidemment, cette COP21, elle va être crucial dans l'optique de réorienter les flux et notamment l'argent privé vers l'économie verte. Si un accord est trouvé, ça sera évidemment un signal très important pour le secteur financier qui verra peut-être dans tout ça finalement un pari gagnant sur le long terme, cette économie verte. Ça sera très très important, même si c'est pas directement le secteur financier qui va être impacté par l'accord lui-même, mais c'est un signal très important.
Bien sûr, il y a d'ailleurs un jeu de, comment dire, d'interaction et un jeu dialectique, si je puis dire, entre ce qui se passe dans le monde de l'économie et ce qui se passe dans la négociation interétatique et multilatérale. C'est-à-dire que chacun se renvoie des signaux. Le monde économique, dont le monde de la finance, attend les signaux de la négociation, et la négociation elle-même est extrêmement sensible aux positions que prennent les acteurs économiques. Donc tout ceci boucle, vous voyez, et c'est ça, c'est cette boucle vertueuse qui s'accélère en quelque sorte, qui est peut-être le phénomène le plus frappant de ce qui se passe actuellement à Paris.
Quand est-ce que justement ce mouvement vertueux s'est enclenché selon vous? Beaucoup disent qu'il y a ce fameux rapport qui a été publié il y a maintenant 4 ans, le rapport Unburnable Carbon, qui avait été publié par Carbon Tracker Initiative et qui mettait en évidence que finalement les business models des entreprises dont les activités dépendent des énergies fossiles étaient largement remises en cause. C'est à ce moment-là qu'a émergé d'ailleurs le concept de risque carbone. C'est ça le tournant, c'est 2011?
Je pense que ça a été un moment très important. La contribution de Carbon Tracker a été essentielle. Ils ont mis du temps avant de se faire véritablement entendre. Je crois qu'il y a eu des effets de cercle concentrique depuis les investisseurs les plus militants, finalement, qui ont très tôt pris, on pense notamment aux fondations universitaires, etc., qui ont très tôt pris conscience et pris position sur ce sujet. Je crois que vraiment l'accélération a été prise depuis le sommet de New York de 2014,
oui.
Et au fond, on a eu d'abord quelques grands acteurs qui n'étaient pas du tout des gens particulièrement impliqués sur la question du climat. Je pense à Paulson, par exemple, qui a pris position en disant, avec Bloomberg, avec d'autres, vous savez, c'est l'ancien ministre des Finances de Bush, hein, en fait, en disant, attention, on va pas pouvoir tout brûler. Et puis, le phénomène le plus... Ça, c'était en 2014. Il y a eu des engagements importants pris au sommet de New York. Et finalement, l'accélération la plus importante, le coup d'accélérateur le plus important, a été donné par Mark Carney. Donc, vous l'avez cité tout à l'heure, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui se trouve être aussi le président du Conseil de stabilité financière, et qui a donné un nom au risque. Qui a dit, attention, il y a un risque pour le système financier mondial. Il y a même un triple risque. Un risque physique, que connaissent bien les assureurs, un risque de transition, attention, les échelles de valeur vont changer, et même un risque de contentieux, de litigation, comme disent les anglo-saxons. Attention, on pourrait vous reprocher de ne pas avoir fait certaines choses suffisamment tôt.
Alors, le risque carbone est là, on en a pris conscience. Vous avez probablement vu ces derniers jours plusieurs ONG publier un rapport intitulé cette fois « Charbon, le crash test, où en sont les banques à l'heure de la COP21 ». Ça a été publié par un certain nombre d'ONG, dont les Amis de la Terre, BankTrack, etc. On apprend là-dedans qu'entre les deux sommets climat, Copenhague et Paris, les banques ont dépensé 2,5 fois plus d'argent sur le charbon que pour les énergies renouvelables. 105 milliards de dollars de soutien aux énergies renouvelables, donc tout confondu, éolienne, solaire, géothermie, qui représente en fait 40% de la somme totale allouée au seul secteur du charbon entre 2009 et 2014. Le charbon, aujourd'hui, reste encore très financé par les banques privées.
Bien sûr, parce que tout simplement le charbon est une source d'énergie qui est très très utilisée dans le monde et que finalement le système financier finance l'état de l'économie à un moment donné. Ce qui est important, c'est la transition et la vitesse à laquelle elle doit se faire. Donc on assiste, vous l'avez dit tout à l'heure, de plus en plus de la part des financiers, que ce soit des banques, des assureurs ou des fonds d'investissement, les fonds de pension notamment, à un retrait du financement des compagnies qui sont présentes dans l'utilisation du charbon, que ce soit des compagnies minières ou des compagnies d'exploitation de centrales thermiques au charbon. Et ce mouvement s'accélère.
Et vous savez, il est parti d'où ce mouvement?
Je pense que ça a été un grand moment d'accélération. Le grand choc pour le monde financier a aussi été la prise de position du fonds norvégien, qui est le plus grand actionnaire du monde, qui est le fonds souverain norvégien, qui est totalement alimenté par des ressources venant de l'exploitation pétrolière. Et qui, sous la pression de l'opposition parlementaire de gauche norvégienne, a posé la question. C'est poser la question, devons-nous désinvestir des énergies fossiles? Venant du fonds norvégien, c'était un véritable choc. Honnêtement, si vous me permettez,
je vous en prie.
Une petite parenthèse pour faire un grand hommage à nos amis norvégiens. Parce que regardez ce pays. Un pays qui était une tribu pauvre de l'Europe. Qui est tombé sur un trésor qui la dépassait. Et c'est peut-être le seul exemple dans l'histoire de l'humanité où une tribu pauvre tombant sur un trésor qui la dépasse, au lieu de commencer à se goinfrer dans son utilisation, a décidé de profiter de cette richesse intelligemment sous forme d'investissement à long terme. C'était déjà un très très grand progrès. Et le deuxième temps, c'est qu'ils se sont posé la question de savoir si, alors même que cette richesse provient des énergies fossiles, il fallait continuer à utiliser des énergies fossiles. Ils l'ont fait avec une méthode remarquable, exemplaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait appel à un comité d'experts qui était présidé par quelqu'un de très important qui s'appelle Martin Skanke, qui est actuellement le président de l'association, la plus grande association mondiale d'investisseurs qui s'appelle Principe pour l'investissement responsable, PRI. Et ce comité d'experts a conclu qu'il fallait pas désinvestir massivement et brutalement, que c'était pas la bonne solution, qu'il fallait en revanche prendre en compte à la fois les risques physiques et les risques de transition du climat, qu'il fallait donc sortir du capital des entreprises les plus polluantes. Et finalement, le débat parlementaire qui a eu lieu pour trancher et prendre des décisions, car en fait, c'est l'État norvégien qui est à la manœuvre sur les orientations stratégiques de ce fonds, a abouti à des conclusions plus radicales encore que ce que proposait le comité d'experts, en décidant notamment de sortir du financement du charbon. Et je pense que ça a été un coup de tonnerre, si vous voulez, pour l'ensemble du monde financier, car ce fonds d'investissement était extrêmement respecté. Et il est un coup de tonnerre non seulement pour les autres investisseurs, mais aussi pour le monde industriel, qui voit bien que c'est la question de l'accès au capital pour les entreprises et les projets les plus carbonés qui va commencer à être difficile.
Alors, pardonnez-moi, Pierre Ducret, je vais me faire l'avocat du diable, ou en tout cas le pessimiste de service. Beaucoup d'ONG considèrent que tout cela, on parlait du charbon, tout ça était peut-être aussi lié à la conjoncture. C'est-à-dire que c'est facile de dire qu'on va plus financer le charbon quand, de fait, c'est de moins en moins rentable, quand le pétrole est à son plus bas niveau depuis 2009, aujourd'hui. Donc, évidemment, on peut se dire que c'est facile de ne pas investir dans le charbon quand il y a d'autres choses, et d'autres choses plus intéressantes du point de vue des profits qu'on va pouvoir dégager. Est-ce que, lorsque ça va redevenir rentable de faire du charbon, est-ce que les banques ne vont pas retourner leur veste? Pierre Ducret.
Alors, bien sûr, c'est plus facile de...
Il y a un contexte, quoi. Il y a une conjoncture quand même,
mais
favorable.
Bien sûr, mais heureusement que l'intérêt bien compris des acteurs financiers les pousse de plus en plus à sortir des énergies fossiles et notamment à sortir du charbon. Si on comptait uniquement sur les bonnes intentions et sur la volonté de contribuer à l'intérêt général pour accélérer la transition au rythme dont nous avons besoin, il y a peu de chances que nous y réussirions. Donc, bien sûr, il faut que chacun... Et c'est vrai, ça, au niveau des États, comme au niveau des acteurs économiques. Une bonne partie du levier de la transition repose sur les intérêts bien compris des acteurs, quels qu'ils soient. Et il est effectivement plus facile de sortir du charbon quand les cours du charbon sont au plus bas, pour des raisons qui tiennent essentiellement à la concurrence du gaz, etc. Vous connaissez l'histoire. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est toujours très facile, parce que vous pouvez aussi considérer que vous allez accepter de reconnaître des pertes dans vos portefeuilles au moment où vous sortez. Que donc vous ne pariez plus sur le fait que les cours de ces compagnies minières, par exemple, vont remonter. Donc je pense que il y a des boucles vertueuses qui sont en train de se mettre en place, et parallèlement des opportunités qui apparaissent, car c'est au nom du risque principalement que le monde financier évolue, c'est normal, ça fait partie de son code génétique, mais c'est aussi parce qu'il prend conscience que des opportunités nouvelles arrivent, et la possibilité de financement d'investissement vert est en train de se multiplier, alors que ça apparaissait jusqu'à une période récente comme quelque chose de marginal.
Alors, pour procéder à la décarbonation de son portefeuille, une banque, quelle qu'elle soit, doit finalement savoir quelle est l'entreprise qu'elle a en face d'elle, quels sont les projets finalement qu'elle finance, et surtout avoir évidemment une idée de l'empreinte carbone qu'il y a derrière tout ça. Or, en réalité, les banques n'ont pas du tout les outils pour faire ça. Comment est-ce qu'on peut imaginer les choses? Est-ce qu'il faudrait mettre en place, des outils qui permettraient de mesurer l'empreinte écologique à chaque fois que vous arrivez avec un projet, avant justement de permettre son financement? Est-ce que concrètement c'est possible?
C'est possible, il y a beaucoup...
Est-ce qu'il faut le faire?
Bien sûr, il faut le faire. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Alors, on ne part pas de rien. Il y a tout un mouvement dit de l'investissement socialement responsable qui a déjà une quinzaine d'années d'histoire et qui a permis de jeter les bases, si vous voulez, de ces éléments, de ce qu'on appelle les critères extra-financiers dans les décisions d'investissement. Il y a des équipes à l'intérieur des établissements financiers, des banques qui sont spécialisées sur ce genre de choses et qui, aujourd'hui, utilise tout ce savoir-faire qui a été accumulé au cours des 15 années écoulées pour s'orienter plus précisément sur la question de l'évaluation du risque climat. Il y a en plus...
D'accord, donc les outils existent. Est-ce qu'il ne faudrait pas imposer dans le process qu'on vérifie finalement l'empreinte carbone de chaque entreprise, de chaque projet?
Oui, l'imposer. C'est-à-dire, d'ailleurs, on voit à l'échelle mondiale, je ne sais pas si on peut parler encore de contraintes absolues, mais en tout cas, on voit apparaître avec le rapport de Marc Carnier au nom du fonds du Conseil de stabilité financière, qui vient de décider de mettre en place une task force, un comité d'experts présidé par Bloomberg, justement, cette idée qu'il faut absolument que l'information, qu'un des meilleurs leviers de l'accélération de la transition, c'est le fait qu'on puisse disposer de l'information sur les différents risques liés à la transition dans l'ensemble du monde économique.
Et oui, tout reposant sur la confiance, évidemment. Donc l'information, il faut qu'elle soit là.
L'information est essentielle. Pour ça, ça suppose de mettre en place des méthodes, car bien sûr, il faut compter les choses de la même façon.
Des labels,
peut-être. Il faut approcher les risques de la même façon. Des labels, certainement. Et il y a des politiques nationales qui se mettent en place dans différents pays, à commencer par la France.
Exemple,
la France, qui, dans le cadre de la loi sur la transition écologique et énergétique, a prévu une disposition qui est connue maintenant dans le monde financier comme l'article 173, il est connu sous ce nom dans le monde entier aujourd'hui, et qui impose aux investisseurs institutionnels alors non pas exactement d'ailleurs de calculer leur empreinte carbone, mais de faire connaître en quelque sorte leur méthode d'appréhension de leur risque climat. Et puis, par ailleurs, cet article 173 impose à l'ensemble du monde financier, y compris aux banques, de se doter de véritables stress tests, c'est-à-dire de se demander dans quelle mesure elles s'alignent, leur stratégie, l'évolution de leur activité est compatible avec un scénario à 2 degrés. C'est-à-dire, est-ce que ma façon de travailler aujourd'hui, ma stratégie, est compatible pour demain avec l'évolution d'un monde qui déciderait de limiter le réchauffement à 2 degrés au maximum.
Autre nouveauté, parce que pour participer à la lutte contre le changement climatique, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. GDF Suez a par exemple émis il y a quelques mois une obligation verte, des green bonds, donc pour un montant total de 2,5 milliards d'euros. C'est la plus importante émission de bons verts, d'obligations vertes qui a jamais été réalisée. Les obligations vertes, c'est une bonne solution pour financer la transition énergétique de votre point de vue?
En tout cas,
c'est un marché en plein essor. Hein.
Bien sûr, c'est aujourd'hui environ 50 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Le marché des obligations vertes, c'est un outil très important parce que Il permet d'abord de flécher des financements par de la dette sur des investissements verts et de les flécher de telle sorte qu'ils soient identifiés par les investisseurs qui vont les acheter et les mettre dans leur portefeuille. Donc en gros, c'est le premier temps de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire de ce que tout le monde souhaite, c'est-à-dire l'invasion de si je puis dire, de des portefeuilles qui en fait utilisent l'épargne mondiale par des financements dédiés à des financements verts. Encore faut-il que ces obligations vertes soient véritablement vertes. Et donc, il y a des initiatives qui se mettent en place pour justement donner des labels, comme vous disiez tout à l'heure. C'est ce que font notamment des organisations comme Climate Bond Principles, les principes pour les obligations climatiques, qui ont pour but, de façon transparente, en fait, d'indiquer quels sont les investissements qui seront financés par ces obligations.
C'est des labels internationaux.
Ce sont des labels internationaux, qui sont pour le moment des labels qui relèvent d'initiatives volontaires et qui ne relèvent pas de contraintes publiques. Mais vous voyez bien, dès lors qu'on est sur un marché mondial, que c'est très difficile de savoir quelle est l'autorité mondiale qui pourra donner les labels. Donc, de ce point de vue-là, l'initiative... Pour revenir à eux, parce qu'elle est absolument essentielle, l'initiative du Conseil de stabilité financière est très importante parce qu'elle va probablement contribuer à accélérer le développement de ces méthodes et la généralisation de ces standards.
Le prix carbone, Pierre Ducret, parce que beaucoup considèrent que pour pousser les investisseurs privés, il n'y aurait rien de mieux vers l'économie verte, il n'y aurait rien de mieux qu'un prix carbone. C'était d'ailleurs la position défendue par François Hollande au début de la COP. Il disait le but est d'établir graduellement un prix mondial du carbone assez haut pour encourager un meilleur comportement. Et il s'inscrit évidemment là-dedans, dans cet grand appel qui avait été lancé notamment par la Banque mondiale et le FMI le 19 octobre dernier. Fixer un prix du carbone, c'est finalement le seul, en tout cas le moyen le plus efficace pour pousser les entreprises et pousser les banques en particulier vers l'économie bas carbone. Je sais que vous y êtes très sensible à ce prix carbone.
Oui, ça fait partie des enfin, c'est le sujet...
Vous l'aviez dit lors d'une audition au Sénat.
C'est le sujet sur lequel s'est créé CDC Climat, dont vous parliez tout à l'heure, et sur lequel nous avons travaillé depuis des années. La Caisse des dépôts a joué un rôle pionnier dans ce domaine. Bien sûr, c'est un facteur très très important de l'accélération de la transition. C'est facile à comprendre. Si on donne un prix à l'externalité négative que constituent les émissions de gaz à effet de serre, on dissuade, disons, les investissements dans les activités les plus carbonées et on encourage, on rend plus rentable les investissements dans les activités vertes. Ça ne veut pas dire que c'est comme disent les anglo-saxons, la balle d'argent, la silver bullet. C'est pas la seule chose qu'il faut faire, qu'on doit faire. Ça ne suffit pas. Même pendant longtemps, ça a servi un petit peu de à tout le monde de s'exonérer de ses responsabilités. C'est-à-dire en gros, il faut qu'il y ait un prix du carbone. S'il n'y a pas de prix du carbone mondial, c'est pas la peine. On n'y arrivera pas. Il n'y a rien à faire. Ouais. Et comme on sait qu'on n'arrivera pas à mettre en place un prix du carbone mondial avant très très longtemps, finalement, ça aboutit à dire.
Oui, notamment parce qu'il y a quand même deux acteurs qui le refusent pour l'instant, c'est les États-Unis et la Chine qui ne veulent pas en entendre parler.
Ah, je crois qu'on ne peut pas dire les choses comme ça.
La Chine veut mettre un marché national chez elle, mais elle ne veut pas de marché international.
Oui, alors c'est déjà très important que la Chine se soit engagée à mettre en place un prix du carbone en utilisant une méthode qui est un système de quotas sur son territoire national. C'est quelque chose de très très important. Il serait effectivement très difficile aujourd'hui, et de même qu'aux États-Unis, il y a des dispositifs, vous le savez, en Californie et dans d'autres États américains qui sont en plus connectés à des initiatives dans des provinces canadiennes qui vont dans le même sens. Donc, et puis il y a un grand marché européen qui est lui-même en cours de réforme, etc. Bon, et la question du lien entre ces différents systèmes de tarification du carbone est une question complexe avec des progrès qui sont inégaux et qui viendront. On aura des prix du carbone mondiaux. On ne peut plus en revanche rêver d'un système unique qui ne garantit absolument pas d'être d'ailleurs l'optimum parce qu'il se traduirait par une immense complexité dans les systèmes de transfert internationaux.
Donc c'est pas forcément souhaitable.
Non, c'est pas forcément souhaitable parce que les systèmes de tarification du carbone seront d'autant plus efficaces qu'ils correspondront aux intérêts bien compris des différents pays dans la mise en œuvre de leur politique nationale. J'ajoute un point, c'est que il suffit pas de avant même, si je puis dire, de mettre en place un prix positif du carbone, ce qui est éminemment souhaitable, encore faut-il ne pas avoir de prix négatif du carbone. Or, comme vous le savez, dans le monde, il y a aujourd'hui 550 milliards de subventions qui sont accordées aux énergies fossiles. C'est des chiffres qui viennent
du FMI,
de l'Agence internationale de l'énergie.
Parfois, on est même beaucoup plus, on a la fourchette va même jusqu'à 4 000 milliards de dollars.
6 000 milliards de dollars, ça c'est le chiffrage par le FMI des coûts indirects. Sur notamment la santé publique, provenant des subventions aux énergies fossiles. Mais non, en gros, je crois qu'il y a à peu près consensus sur le fait que c'est environ 550 milliards de dollars par an. Ça correspond à un prix négatif du carbone, bien sûr. Puisque si vous subventionnez les énergies fossiles, vous donnez un prix négatif au carbone. Donc vous voyez qu'il y a un très grand parallélisme entre la nécessité de réduire les subventions aux énergies fossiles et de créer des prix positifs sur le carbone dans les différents pays. De ce point de vue, les initiatives qui sont prises, notamment dans de grands pays émergents, je pense à l'Indonésie, au Mexique, qui s'engagent dans leur contribution nationale, ces fameuses INDCs, à réduire les subventions aux énergies fossiles, sont éminemment positives.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine autour des banques. Aujourd'hui, quand les billets se mettent au vert, on parle de l'investissement dans l'économie verte avec Pierre Ducret, notre invité, conseiller du groupe Caisse des dépôts pour le climat et président de ce think tank, l'Institut pour l'économie du climat. Vous connaissez la Green Investment Bank, la banque verte d'investissement, évidemment, Pierre Ducret, hein, créée en 2012 et puis dirigée par Sean Kingsbury. Écoutez-le.
Nous sommes sur le point de lancer un nouveau processus important pour stimuler encore plus la création d'actifs en basse teneur en carbone. C'est l'EMR, Energy Market Review. Et donc, en ce moment, nous changeons notre stratégie. Nous changeons nos programmes de certification verte pour des contrats avec un prix qui est déjà fixé et qui permettra de garantir des revenus sur 15 ans. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires aujourd'hui qui permettent de garantir un profit pendant 15 ans. Ça donnera donc beaucoup de transparence et de certitude pour les investisseurs. Et là, si nous investissons aujourd'hui seulement 40 à 50% de l'argent qu'il faudrait en 2020, il va falloir trouver d'autres sources, des investisseurs institutionnels ou des investissements directs étrangers. En leur donnant une visibilité claire sur leurs revenus, les investisseurs pourront prendre des risques pour le développement, des risques pour la recherche technologique, mais personne ne veut prendre un risque sur les prix quand il s'agit d'investissements à 20 ou 25 ans.
Prendre des risques, Pierre Ducret. Votre réaction sur à la fois la démarche de cette banque Green Investment Bank, créée, je le rappelle, en 2012, une banque britannique, sur sa stratégie justement pour attirer des fonds privés. Est-ce que ça fonctionne? Quel bilan est-ce qu'on peut en faire? Et puis, la deuxième sous-question qu'il y aura derrière, Pierre Ducret, c'est est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse, en tout cas moi je l'émets et puis vous me direz ce que vous en pensez, que finalement le meilleur moyen peut-être de mettre les banques au vert, c'est d'en créer une nouvelle. Pierre Ducret.
Alors, l'exemple de la Green Bank britannique qui vient d'être cité est très très intéressant parce qu'il illustre bien un des principaux moyens d'action qui permet aujourd'hui d'orienter le système financier vers les investissements verts. Et c'est l'arme des garanties. En fait, l'arme de la coopération entre l'argent et les signatures publiques, disons, et puis le système financier privé. Puisqu'il n'y a pas encore un prix du carbone positif suffisant dans tous les pays, que tous les signaux économiques ne sont pas alignés, pour donner suffisamment de sécurité aux investissements privés dont on le sait et aux financements privés dont on sait qu'ils représentent l'essentiel des capacités de financement de la transition à l'échelle mondiale, c'est les milliers de milliards qui doivent basculer. Nous avons besoin de correctement mixer l'argent public et l'argent privé, d'utiliser intelligemment l'argent public pour qu'il contribue effectivement à orienter les financements privés au bon endroit. Et là, de ce point de vue-là, il faut chercher à avoir les meilleurs effets de levier possibles, comme on le dit souvent. Et l'arme des garanties, bien sûr, est une arme très très importante. L'initiative de la de la Green Bank britannique va dans ce sens, mais je pourrais vous en citer un grand nombre dans le monde qui sont tout aussi intéressantes. Vous avez par exemple une initiative que nous avons présentée au Focus qui a été fait au Bourget sur la finance privée et qui consiste à apporter, avec une coopération à la fois de la Banque américaine de développement et du fameux fonds vert, des garanties qui permettent d'émettre des obligations par des banques commerciales qui ont refinancé des investissements d'efficacité énergétique, notamment en Amérique latine. Vous voyez, on voit ces dispositifs de garantie qui sont des leviers considérables pour orienter correctement les financements se développer partout dans le monde.
Et ma deuxième question ? Est-ce que le meilleur moyen de mettre les banques au vert, ça reste pas de finalement mettre d'une certaine manière les historiques sur la touche et de créer des nouvelles banques, nouvelles entités ?
Comment dire ? Je pense qu'un des principaux moteurs finalement de l'évolution du système financier, c'est la crainte d'être dépassé par de nouveaux acteurs, ce qui s'est déjà produit dans l'histoire. C'est une image que j'aime bien citer. Elle est une double photo que montre Carbon Tracker, justement, que vous évoquiez tout à l'heure, souvent au début de ses conférences. C'est une photo de la 5e avenue à Manhattan en 1900 et la même photo, le même endroit de la 5e avenue en 1913. Le sous-titre de la première photo, c'est Where the Car, et le sous-titre de la deuxième photo, c'est Where the Horse, parce que en l'espace de 13 ans, on avait remplacé totalement les chevaux par les voitures. Et il se trouve que tout ça, ça s'est fait avec un bouleversement complet des acteurs financiers, des acteurs industriels et des acteurs financiers. Donc, les acteurs actuels n'ont pas du tout envie de disparaître. Ils doivent donc
participer. Donc, on va plutôt vers une transformation plutôt que vers l'émergence, finalement, d'un système parallèle.
C'est mais ça je pense qu'on aura les deux, car ouais. On a aussi besoin des acteurs spécialisés, alternatifs et parallèles. Je pense que si on veut que l'évolution et la transition se fassent au bon rythme, qui est un rythme extrêmement rapide, il faut que les acteurs principaux eux-mêmes évoluent.
Et est-ce que, et encore un mot, puisqu'il faut qu'on se dépêche, on va retrouver un nouvel invité dans un instant, Nick Robbins, pour parler un petit peu de la Chine, mais est-ce que l'investissement collaboratif peut avoir son rôle à jouer? Parce que, évidemment, c'est une des choses qu'on a beaucoup vu émerger avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Est-ce qu'on peut compter finalement sur ce secteur, l'investissement collaboratif, pour dynamiser l'économie verte? Ou est-ce que ça va rester marginal, selon vous?
Je ne sais pas si ça va rester marginal. Ce que je pense, en tout cas, c'est que l'investissement collaboratif, toutes ces plateformes qui sont en fait des éléments de désintermédiation du système financier, illustrent un autre phénomène qui est l'introduction des technologies, de l'information, de la digitalisation du monde financier, qui contribue à la désintermédiation et qui est là aussi un puissant stimulant pour les banques, qui elles-mêmes doivent tenir compte de cette nouvelle forme de concurrence. Alors ça s'applique aussi, mais pas seulement, à l'investissement vert.
Alors aujourd'hui, tous les regards, et on l'a déjà un peu évoqué, Pierre Ducret, se tournent vers la Chine. C'est elle qui produit le plus de gaz à effet de serre et qui a peut-être les problèmes de pollution les plus importants. Il suffit de regarder vers Pékin ce qui se passe en ce moment et le nuage qui prend aujourd'hui tous les Pékinois pour le comprendre. La finance verte, elle est vue comme une priorité stratégique du côté de Pékin. On comprend quand on voit les niveaux de pollution, évidemment, et d'ailleurs ça apparaît tout ça dans le plan quinquennal de la République populaire de Chine. Alors comment verdir le système financier chinois? Quelles mesures ont été prises? On va retrouver Nick Robbins. Il est aujourd'hui au Fonds des Nations Unies pour l'Environnement, co-directeur d'un rapport paru cette année, l'établissement d'un système de financement vert en Chine. Alors, quels espoirs, quelle réalité aussi pour la Banque de Développement Écologique Chinoise, quels intérêts aussi peut-être pour les banquiers privés? Nick Robbins est au micro de Xavier Martinet.
Disons que le contexte est particulièrement important. La Chine reconnaît avoir besoin de lever 400 milliards de dollars par an en investissement vert, mais seuls 10 à 15% peuvent émaner du secteur public, c'est-à-dire être prélevés sur le budget fiscal. Par conséquent, ces priorités mettent vraiment l'accent sur les capitaux privés injectés par les banques, les institutionnels, etc. Ensuite, il y a un certain nombre de mesures assez connues dans le reste du monde, comme par exemple promouvoir un marché des obligations vertes, encourager les investisseurs à souscrire des obligations vertes chinoises. Deuxième exemple, améliorer les normes d'information financière sur le marché boursier chinois, là encore une mesure assez connue, adoptée dans de nombreux pays. Troisième domaine, le renforcement du cadre juridique, afin que, par exemple, les banques qui prêtent au secteur très polluant puissent être déclarées juridiquement responsables d'une partie des dommages provoqués si elles n'ont pas correctement évalué les risques. Il s'agit donc, comme vous le voyez, d'encourager ces grands flux de capitaux grâce à un ensemble de mesures plutôt destinées au marché.
Et alors, comment est-ce que l'on peut mesurer l'efficacité de ce verdissement des investissements chinois, pas seulement à partir de cette année, mais à partir de 2012, lors du 18e congrès du Parti communiste, là où le vice-président Du Qingling avait dit qu'il voulait, je le cite, une civilisation écologique?
C'est une très bonne question. Je pense que la Chine fait comme la plupart des pays, c'est-à-dire qu'elle progresse par étapes. Et elle a commencé par adopter des directives sur les crédits verts, qui sont des lignes directrices élaborées par l'autorité bancaire et destinées aux banques chinoises pour leur permettre d'améliorer leur gestion du risque environnemental et de canaliser les capitaux vers les projets verts. Selon les dernières estimations, 9% des crédits concernent désormais des secteurs verts prioritaires, ce qui est une amélioration et une manière, selon moi, de mesurer l'efficacité. Ensuite, ce qui est en cours de développement cette année est vraiment une stratégie prospective. Il est donc peut-être encore trop tôt pour en mesurer l'efficacité, mais par exemple, s'agissant des obligations vertes, la Banque centrale va très prochainement publier sa première réglementation sur les obligations vertes. Elle fixera un cadre précis permettant aux banques et autres instances de commencer à émettre des obligations vertes et peut-être comprendra-t-elle des incitations fiscales en lien avec les obligations vertes.
Et encore une fois, alors vous-même du côté institutionnel, c'est-à-dire de l'ONU, qu'est-ce que vous pouvez espérer en termes, disons, d'effets d'entraînement? Parce que vous l'avez dit vous-même, ce sont seulement 10 à 15% des investissements qui sont donnés par les autorités chinoises, donc l'État. Alors est-ce qu'on peut parler d'une finance verte intéressée, une finance privée, parallèlement à la volonté de l'État?
Tout à fait. Une fois encore, si l'on regarde l'une des mesures nécessaires pour mobiliser les capitaux, du côté de la demande, les gouvernements peuvent fixer les prix du carbone, de l'eau. Ils peuvent adopter une réglementation environnementale stricte. Mais du côté de l'offre, et c'est bien de cela dont il s'agit, on a la possibilité de fournir directement des capitaux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quel point le développement de la finance verte en Chine s'inscrit vraiment dans sa stratégie de croissance générale. La Chine souhaite vraiment inciter les investisseurs internationaux à investir dans les obligations vertes, et elle a d'ailleurs récemment émis une obligation en yuan sur le marché londonien afin d'attirer les investisseurs internationaux. Elle est donc décidée à faire entrer des capitaux verts en Chine, mais elle est tout aussi déterminée à lier la finance verte à des flux de capitaux en dehors du pays, notamment dans le cadre de grands projets d'infrastructures, comme la construction de routes par exemple, ou dans le cadre d'autres programmes chinois d'exportation et d'investissement. Je crois que ce qui se passe, c'est que la Chine voit sa finance verte comme un élément de sa grande stratégie générale de mobilisation des capitaux privés. Il y a un désir très net de la part de la Chine, dans le domaine des obligations vertes par exemple, de veiller à adopter des normes respectueuses des principes internationaux en la matière, afin que les fonds d'investissement européens ou américains puissent plus facilement investir dans les obligations vertes chinoises parce qu'elles respectent les mêmes principes.
Dans le rapport du Fonds des Nations Unies pour l'environnement, il n'y a qu'une seule banque chinoise qui apparaît comme ayant créé un département spécial pour les investissements verts, alors qu'elles sont beaucoup plus nombreuses en Europe, beaucoup de banques l'ont fait. Comment est-ce que, selon vous, il faut expliquer cela? Est-ce que c'est un signe de désintérêt? Est-ce que les banques chinoises sont plus timides que les banques européennes?
Je pense que plusieurs banques chinoises abordent cette question, mais sous des angles différents. La banque industrielle, effectivement, mais également la banque agricole de Chine, ou encore ICBC, la plus grosse banque du pays, ont des systèmes de gouvernance environnementale centrale bien établis, et certaines banques vont même plus loin en étudiant les implications des réglementations à venir sur les actifs actuels. Donc je pense que ce qui est intéressant, et pas seulement en Chine, mais également dans d'autres pays, et notamment des pays émergents, c'est que ces pays adoptent des approches légèrement différentes de ce que fait l'Europe. En Europe et en Amérique du Nord, par exemple, les banques ont massivement adopté les principes de l'Équateur, qui sont résolument tournés vers le marché. Tandis qu'en Chine, la gestion du risque environnemental a été abordée, comme je l'ai dit, par le biais de ces directives de crédit vert, adoptées par l'autorité bancaire. Ce sont donc des manières différentes d'aborder un même problème, selon la culture financière de chaque pays. Il ne peut pas y avoir d'approche universelle.
Vous-même, vous êtes un ancien de la banque britannique HSBC. Alors, avec le recul maintenant sur cette expérience de la Green Investment Bank, comment est-ce que vous considérez le projet chinois ? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on pourrait appeler une stratégie plus payante qu'une autre ?
Je crois que nous assistons au début d'une nouvelle ère. Bon nombre des innovations dont nous avons parlé avec le Green Investment Bank au Royaume-Uni ou que nous avons évoquées avec la Chine sont encore relativement nouvelles. Et je crois que l'objectif 2016 sera de les déployer à l'international, comme nous l'avions dit. Aucun pays n'a encore complètement mis en œuvre une stratégie de système financier vert. Nous n'en sommes encore qu'au tout début. Mais ce qui, je crois, est très encourageant, c'est que de plus en plus de pays veulent apprendre les uns des autres. Et à cet égard, 2016 sera, je pense, une année de renforcement de la coopération internationale et de partage de bonnes pratiques entre pays dans toutes les régions du monde.
Et alors, est-ce que vous diriez que 2016 sera l'année où l'on verra des investissements verts massifs de la part de la finance privée cette fois ? Je veux dire avec des chiffres comparables, sinon 5 ou 10 fois plus justement à ceux des institutions.
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, à Paris, nous avons entendu beaucoup de promesses. Il y a la marque d'un engagement ferme de la part des fonds de pension et des investisseurs européens et d'Amérique du Nord. On a par exemple la coalition pour la décarbonisation des portefeuilles, un groupe d'industriels qui se sont engagés à réduire l'empreinte carbone de leur portefeuille. Ils représentent 600 milliards de dollars. On parle donc d'une somme très importante. De nombreux engagements ont donc été pris ici à Paris, notamment sur la question du climat. Et je crois que l'an prochain, l'accent sera mis sur le développement de stratégies de financement vert dans plusieurs pays et que nous assisterons à une forte hausse des volumes de finances vertes au sens large du terme, c'est-à-dire pas seulement autour du climat, mais plutôt une finance verte autour de questions environnementales locales, comme l'eau et bien d'autres. Mais 2016 sera sans aucun doute l'année de la finance verte.
Voilà, Nick Robbins, ancien banquier chez HSBC et puis co-directeur cette année du rapport du Fonds des Nations Unies pour l'environnement sur la Chine, donc sur cette instauration d'un système de finance verte en Chine. Il était au micro de Xavier Martinet, Pierre Ducret. Réaction sur ce que vous venez d'entendre ? Je vous ai vu gribouiller quelques petits mots-clés sur votre papier.
Bon, d'abord, je trouve que le travail qui a été fait par Nick et par toute l'équipe de ce qu'on appelle le UNEP Inquiry, qui était une grande enquête sur l'évolution des systèmes financiers dans le monde. Ces actions qui sont menées du côté de l'offre de capitaux, vous voyez, par opposition, vu de l'autre côté que celui de l'économie réelle. Du côté de l'économie réelle, on dit encore d'ailleurs, il faut un prix du carbone positif, etc. Là, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire du côté de l'offre de capitaux sur l'économie. Et c'est ça sur quoi ils ont enquêté avec des résultats vraiment très très intéressants dans des régions du monde très différentes. C'est-à-dire, ça va effectivement de la Chine où les enseignements de l'étude sont particulièrement éclairants, jusque au Brésil, en passant par le Kenya, etc. Donc ils ont couvert vraiment l'ensemble du monde. Et ce qui est frappant pour la Chine d'abord, c'est le fait que dans cette économie qui bien sûr est une économie de marché, comme on le sait, mais qui est aussi une économie planifiée, où l'emprise du secteur public est extrêmement forte, la Banque centrale chinoise dit qu'elle a besoin de 80% de financement privé pour financer le prochain plan quinquennal, qui vise à un verdissement complet de l'économie chinoise, et qui doit donc se donner les moyens, avec des leviers incitatifs ou des leviers de pénalisation pour que la finance privée s'oriente au bon endroit, si vous voulez. Et ça se traduit donc par la nécessité d'un verdissement complet du système financier chinois. Avec une ouverture en plus sur le système international, parce qu'ils vont avoir besoin d'importer des capitaux étrangers pour financer ces investissements si c'est colossaux, c'est 400 milliards de dollars par an, si je me souviens bien, dans les chiffres qui sont cités par Nick Robbins et par l'Inquiry. Ce qui les amène d'ailleurs à avoir mis au sommet de l'agenda du G20 de l'année prochaine qu'ils vont présider la question de la finance verte. Donc quand Nick Robbins dit que l'année 2016 sera l'année de la finance verte, je pense qu'il a absolument raison.
On est au début. On est à l'année zéro.
On est au début du processus. C'est déjà gros, ça grossit très vite et ça devient maintenant un des sujets principaux de l'agenda de la finance.
après la Chine, je voudrais qu'on parle de l'Afrique à présent, Pierre Ducret, parce que les banques privées, elles peuvent bien sûr participer, mais elles doivent être soutenues par, dans leur démarche, par les banques publiques et notamment par les banques de développement, comme la Banque africaine de développement. Elle emploie quelques milliers de personnes, cette banque. Elle participe activement à l'adaptation du continent au changement climatique. Elle a engagé 7,3 milliards de dollars de nouveaux prêts et de dons en 2014, sur lesquels on a 1,5 milliard de financement climatique. Elle est dirigée depuis quelques semaines maintenant par son nouveau président, Adesina Akinwumi. Écoutez ce qu'il disait lors de son discours d'investiture, c'était le 1er septembre 2015.
We must light up and power Africa. Africa.
L'Afrique ne peut pas continuer à faire du surplace avec autant de ressources naturelles qui pourraient être utilisées comme énergie renouvelable. Et elle ne peut pas rester connue non plus pour l'obscurité et non l'éclat de ses villes et de ses zones rurales. Le continent a été généreusement doté d'un potentiel illimité d'énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermique. Et nous devons débloquer ce potentiel non conventionnel et renouvelable. Et ce sera un des objectifs majeurs des banques que de contribuer au développement d'un potentiel énergétique écologique, africain et pour les Africains. Les banques seront en première ligne pour répondre à cette question critique, parce que rien n'est plus important pour l'avenir de la croissance et du développement du continent africain.
Voilà, les banques devront être associées au développement du potentiel énergétique du continent. Voilà ce que nous disait Adesina Akinwumi. Bonjour Jean-Joseph Boileau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, conseiller auprès du Club du Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI. L'Afrique, elle est arrivée à la COP avec justement un projet de développement des énergies renouvelables extrêmement ambitieux, l'Initiative africaine sur les énergies renouvelables, qui vise à combler évidemment le terrible déficit énergétique dont est victime le continent. C'est d'ailleurs son président justement qui l'a présenté au Bourget. Est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots très rapidement nous le présenter et surtout nous expliquer comment il devrait être financé, qui est la clé de tout ça, évidemment, Jean-Joseph Boileau.
Oui, tout à fait, parce que l'interlocuteur précédent parlait, vous avez vu à propos de la Chine, de centaines de millions de dollars. Pour l'Afrique, il y a bien sûr beaucoup d'envolées, de grandes phrases, mais pour l'instant, si je prends l'exemple de la Banque africaine de développement, les engagements en cours, donc le portefeuille, si vous voulez, de prêts, représente à peu près 6 milliards de dollars. Et l'environnement, pour l'instant, c'est 0,7% de cela. C'est-à-dire que pour l'instant, en Afrique, on compte plutôt en dizaines de millions de dollars qu'en milliards de dollars. Et il est très bien d'avoir pris cet engagement, comme l'a dit le docteur Adesina, de consacrer près de 7 milliards de dollars au financement de projets en faveur du développement non carbone. Mais voyez qu'on reste dans des sommes ridiculement petites.
Oui, peut-être pour une raison très claire, Joseph Boileau, c'est que finalement, peut-être que pour l'Afrique, la priorité, c'est pas forcément le climat. La priorité, c'est tout simplement la lutte contre la pauvreté.
Exactement.
Coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, il faut électrifier le continent, y compris si c'est avec des énergies fossiles dont par ailleurs l'Afrique dispose. On n'est pas encore prêt finalement à cette grande transition énergétique. La priorité, et notamment la priorité de la Banque africaine de développement, c'est la lutte contre la pauvreté.
Exactement. Et les infrastructures représentent plus de la moitié de son portefeuille. Et quand on dit dans les infrastructures, il y a pour plus de la moitié des centrales. Et ces centrales sont pour l'essentiel, pour l'instant encore, des centrales à charbon ou au fioul, au mieux du combiné gaz-fioul. Mais est-ce que c'est là le problème? Et je crois qu'il y a un problème d'approche en général de ces fonds. On a eu tendance à créer, si vous voulez, un système dual couplé. D'un côté, alors si je prends la Banque africaine de développement, mais c'est le cas aussi de la Banque mondiale, on a tout un ensemble d'opérations que je vais appeler conventionnelles, qui ont d'énormes moyens comparés à un deuxième type de fonds, un deuxième type de fonds, qui sont, on va dire, de type finalement expérimental. Alors expérimental, ça fait déjà pas mal d'années. Alors, 1999, c'est le premier fonds prototype de la Banque mondiale. À la Banque africaine de développement, ça remonte à 2 ans seulement, son département énergie verte. Or, en réalité, je pense que, compte tenu de ce que j'avais moi-même calculé pour l'Afrique, de son besoin en énergie, il est évident que c'est plutôt un mix, une sorte de millefeuille entre du renouvelable, on va dire, à 150%, et puis du mix entre du carbone de type charbon ou pétrole dont l'Afrique regorge. Il faut quand même bien regarder cela. Et d'un autre côté, donc des moyens pour réduire l'empreinte carbone. Un exemple, on sait aujourd'hui, avec le charbon ou avec le gaz, qu'il y a un surcoût d'environ 30 à 40% pour arriver à un très très fort atténuement, si vous voulez, des émissions, de l'ordre de 80%. Et le problème de ces fonds, bien souvent, c'est qu'ils ne sont pas pris en compte, ne sont pas acceptés à l'intérieur de ces portefeuilles dits de renouvelables. Donc je crois qu'il faudrait, avec l'Afrique, bien avancer sur la fin de cette dichotomie et dire la priorité, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est l'accès, évidemment, à l'énergie de 1 milliard d'Africains qui n'ont pas accès aujourd'hui, et trouver des modes de financement qui sont peut-être bâtards, mais qui, en tout cas de cause, mélangent bien le classique carbone et le renouvelable. Me semble-t-il, c'est mieux. Pierre. Parce que, dernier problème, ça coûte très cher aujourd'hui encore, malgré tout, le renouvelable.
Et oui, oui,
je
bien
veux
sûr.
Bien qu'on ait fait des progrès gigantesques, mais dans l'éolien ou dans le solaire, Jean Covici a bien calculé le coût compte tenu d'une durée de vie des équipements qui est bien moindre que dans le reste, et encore dans 1,4.
Pierre Ducret, je voulais vous faire réagir sur cette Afrique. Évidemment, il y a de quoi... Alors, pour le moment, ce que dit l'Afrique, c'est nous ne sommes responsables que de moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, donc... il faut nous laisser nous développer, il faut même nous aider à nous adapter au changement climatique. Et c'est vrai que c'est difficile de dire autre chose à l'Afrique. C'est-à-dire, quand elle nous explique que de toute façon, son but, c'est d'électrifier le continent assez largement déficitaire en la matière, c'est de lutter contre la pauvreté. On est loin de la finance verte décrite préalablement, Pierre Ducret. Hein.
Je ne crois pas qu'on en soit si loin. Pour plusieurs raisons.
D'abord, vous avez vu ce que dépense la Banque centrale, la Banque africaine de développement?
Oui, mais vous savez, les choses évoluent très très vite. D'abord, il s'est passé une chose très importante qui vous a certainement pas échappé, c'est l'adoption des objectifs de développement durable à New York après la conférence d'Addis Abeba qui classe le climat parmi les objectifs prioritaires, fait du climat un sujet qu'on retrouve dans tous les autres objectifs, y compris celui qui consiste à éradiquer la pauvreté d'ici 2030, si je me souviens bien.
En quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cette émission, mais je vous laisse conclure.
Il n'y a plus de contradiction absolue entre la lutte contre la pauvreté et l'économie verte. L'objectif, c'est au contraire d'utiliser l'économie verte, et c'est quelque chose qui n'était pas accepté par les pays les plus pauvres. Il y a peu de temps encore, ne serait-ce qu'au moment de Rio plus 20, économie verte comme un des meilleurs moyens de constituer un nouveau projet de développement. Donc je crois que la contradiction ancienne est en train de se dissiper. Par ailleurs,
donc vous
on voit
optimiste. Je
dans
40,
40 pays du monde ont maintenant une parité entre le coût de l'électricité produite par l'énergie solaire et l'énergie à base de charbon. C'est le cas par exemple en Afrique du Sud, qui est pourtant un pays qui traditionnellement a beaucoup de charbon, en exploite beaucoup. La question aujourd'hui, c'est plutôt comment, alors que cette parité existe, on va organiser la transition, notamment des emplois d'un secteur à l'autre. Mais pour tout ça aussi, il y a des solutions.
Merci beaucoup, Pierre Ducret, en tout cas, d'avoir été notre invité. Et je remercie également Jean-Joseph Boileau, qui était avec nous par téléphone. On peut retrouver, bien sûr, cette émission, toutes ces réflexions sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Il faudra qu'on vous réinvite pour évoquer un nouveau sujet. Mais nul doute, puisqu'on est à l'année zéro de la finance verte, qu'on aura l'occasion de le faire, Pierre Ducret.
Merci
un grand
beaucoup.
Merci. Dans un instant, sur France Culture, c'est La Grande Table avec Caroline Brouet. Mais juste avant de la retrouver, c'est La Vie Moderne, comme chaque jour sur France Culture. Belle journée et à demain.